l'invité de la rédaction. Pierre Ellenbach.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Daniel Reininger, ancien président et pilote du réseau eau de l'association Alsace Nature.
Oui, bonjour.
Bonjour et bienvenue sur Radio Judaïka.
Merci de me recevoir.
Alors pour commencer, j'aimerais connaître votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à être président d'Alsace Nature ?
Alors c'est un peu les circonstances, hein. C'est aussi un engagement ancien. Donc j'étais fonctionnaire et j'étais spécialiste de l'eau. Et donc, j'étais fonctionnaire au ministère de l'Environnement et donc j'ai milité toujours effectivement pour la protection de la nature. Et puis, quand je pris ma retraite, je me suis engagé un peu plus et finalement, j'ai été président d'Alsace Nature pendant 5 ans.
Et pourquoi vous êtes engagé au sein de cette association en particulier ?
Parce que je la connaissais depuis longtemps, hein. Même si à un moment donné, je la suivais d'assez loin, après un peu plus, parce que finalement, on se retrouvait dans des réunions avec les délégués de l'époque d'Alsace Nature, qui, effectivement, partageaient souvent les mêmes points de vue, donc ça m'a rapproché forcément de l'association.
Pouvez-vous nous parler d'Alsace Nature, depuis combien de temps existe-t-elle ?
Alors, elle existe depuis 57 ans. C'est Alsace Nature, à l'époque, ça s'appelait pas Alsace Nature, c'était l'Association fédérative régionale de protection de la nature, qui a été créée en 1965 par des professeurs d'université de Strasbourg.
Et quels sont les objectifs et vos missions au sein de l'association ?
Les objectifs, c'est effectivement, si on les résume, c'est la protection de la nature. Mais c'est aussi l'état d'esprit à l'époque, c'était de se dire que finalement, à la fin des 30 glorieuses, grosso modo, hein, c'est-à-dire les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, où on a produit un peu, je dirais, n'importe comment, comme un pays en voie de développement, mes prédécesseurs ont vu les premiers impacts sur la nature, notamment sur les zones humides, notamment en montagne, notamment sur la qualité des cours d'eau, hein, qui à l'époque étaient considérés comme de simples émissaires pour toutes les eaux usées et toutes les eaux des industries. Et donc, ils pensaient que c'était le moment de secouer un peu l'opinion publique et d'apporter un contrepoint à des politiques publiques qui ne tenaient pas compte du tout de l'environnement.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé ? Est-ce que vous avez vu des évolutions ?
Alors, heureusement que les choses ont changé, hein, parce que, juste pour rappeler un peu comment ça s'est passé, en fait, hein, c'est-à-dire notre développement, on voit les problèmes que notre développement un peu désordonné, hein, et même totalement égoïste a comme effet sur la planète, c'est-à-dire on parle de changement climatique, on a une perte de la biodiversité, on a des problèmes de qualité d'eau, de qualité d'air, même de qualité des sols, on arrive au bout des ressources naturelles, en fait, on est sur un modèle de développement qui a pris racine dans les 30 glorieuses, hein, donc il fallait absolument produire, et effectivement, produire sans autre contrainte, un peu comme le font tous les pays qui, à un moment donné, rentrent en développement. Des choses qu'on reproche d'ailleurs à d'autres pays aujourd'hui, mais qui font exactement la même chose qu'on faisait nous il y a 70 ans, ou 50 ans encore. Et donc, ces 30 glorieuses qu'on appelle les 30, qui ont suivi, 30 années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, c'était produire à tout prix par n'importe quel moyen. Et derrière ça, on a vu les premiers impacts. C'est ce qui a motivé la construction, en fait, et puis la création de l'association.
Vous avez parlé de biodiversité, mais en fait, est-ce qu'il y a des solutions pour la préserver aujourd'hui ?
Ah, les solutions existent. Si vous voulez, vous avez demandé si les choses ont changé, je dirais que depuis le temps, on sait exactement quelles sont les pressions qu'on exerce quand on a une activité économique. Parce que bon, il ne faut pas se leurrer, hein, l'activité économique et l'activité humaine produisent forcément des effets. Que ce soit sur la biodiversité, sur la nature, que ce soit sur les ressources, que ce soit sur la qualité d'eau, la qualité de l'air. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Quand on fait quelque chose, on connaît les impacts. Le tout, c'est de savoir si ces impacts sont supportables dans l'espoir ou dans l'esprit de continuer l'aventure humaine sur la Terre. En fait, on arrive à ce stade-là.
Et est-ce qu'il y a des pays qui sont aussi en avance par rapport à la France, par rapport à ces choses-là ?
Alors, il y a des pays qui sont en avance dans l'équilibre, en fait, entre les choses. C'est-à-dire que On parle beaucoup de sobriété aujourd'hui, alors les pays qui sont finalement les plus développés ont le plus de mal à approcher la sobriété qu'il faudrait avoir pour ne pas gaspiller les ressources et pour rentrer quelque part dans le cadre qui permet de continuer l'aventure. Alors les pays, vous avez des pays comme le Costa Rica ou d'autres pays qui sont des pays entre guillemets en voie de développement, qui sont déjà beaucoup plus sobres et exemplaires que nous. À la limite, les pays aujourd'hui qui sont les moins industrialisés sont à la limite beaucoup plus vertueux que nous. C'est-à-dire que quand si tout le monde vit comme les Américains, il faudrait 5 planètes. Si tout le monde vit comme les Français, il faudrait 2 planètes et demie ou 3 planètes. Et si tout le monde vit comme dans certains pays en développement, même en Afrique, finalement, si vous prenez un pays d'Afrique qui est pas industrialisé, qui a pas de pétrole, 0,7 planète suffirait. Donc, on a aujourd'hui à travers le monde des gens qui vivent et ont un mode de vie qui est compatible finalement avec l'utilisation des ressources et les rejets que cela produit, alors que d'autres finalement continuent à tirer sur la corde jusqu'à ce qu'elle casse.
Et si on continue dans cette voie-là, qu'est-ce qui peut se passer? Quels sont les plus gros risques?
Les plus gros risques, on les voit déjà plus ou moins, hein, c'est-à-dire qu'on a des changements climatiques qui dans certaines régions vont rendre des régions inhabitables. Alors, pour l'instant, dans les pays développés, on a de la climatisation, on arrive à jongler encore, mais les pays les plus pauvres, aujourd'hui, souffrent beaucoup plus du changement climatique. Alors, dans un premier temps, on va avoir des endroits sur Terre qui vont être inhabitables, et du coup, vous aurez finalement de la violence, parce que les gens vont se défendre, et si on veut régler... Aujourd'hui, on est dans un monde violent, ça je vous l'apprends pas, vous le voyez tous les jours, hein, de tous les côtés. Et cette violence vient en partie aussi du fait que les gens n'ont rien à défendre, ils ont rien, donc ils cherchent tout simplement à survivre. Et quand on cherche la survie, ça se fait souvent dans la violence. Et je pense que si on veut un monde apaisé où tout le monde peut finalement se développer et avoir les mêmes chances, il faudra que nous, les pays développés, on soit capable de supprimer l'inutile ou le superflu.
En parlant d'actualité, le 29 février, le tribunal administratif de Strasbourg a validé les mesures prises par la préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier, pour compléter les arrêtés d'autorisation de chantier pour la construction de l'A355 et lever ainsi les irrégularités soulevées par votre association. Que pensez-vous de cette affaire?
Je pense tout simplement sur l'affaire du contournement ouest. Aujourd'hui, on gère des parties judiciaires plutôt. Mais en fait, c'est dès le départ que ce dossier a fait l'objet d'un déni de démocratie et même un déni de justice, parce que à un moment donné, quand on a fait les recours, avant la construction, les recours ont été balayés sous des prétextes. On voyait très bien qu'il y avait une pression politique très forte et qu'il était hors de question de renoncer à construire le GCO. Et donc tous les moyens étaient bons pour effectivement autoriser la construction. Et aujourd'hui, la construction est là et on sait que la jurisprudence en France, c'est de ne jamais détruire un ouvrage public. Donc il est là. Ce GCO a été construit en tordant les textes et en tordant les règles. Et finalement, aujourd'hui, il est là. Alors qu'on valide ou qu'on invalide, finalement, c'est plus le sujet. Le sujet, c'est que la démocratie, elle fonctionne pas bien en France sur des grands projets comme ça, qui sont des grands projets qui sont forcés, dont le passage est forcé, et donc où la décision est politique, elle n'est pas technique en fait. Ça, peu importe le dossier. Alors on a réussi à corriger certains excès en obtenant des mesures compensatoires, mais je dirais que sur le fond du problème, on n'a rien réglé du tout.
Autre sujet d'actualité, 18 communes en Alsace sont contaminées par des substances chimiques utilisées dans l'industrie, surnommées des polluants éternels. Pouvez-vous nous en parler?
Oui, alors les polluants éternels, effectivement, c'est pas depuis hier qu'on les connaît, on les connaît. Et en fait, je dirais, c'est un peu comme tout. En Europe, on utilise des centaines de milliers de molécules, que ce soit chimiques, hein, que ce soit directement dans l'industrie, que ce soit indirectement chez nous à la maison, ou que ce soit dans l'agriculture. Et en fait, quand on regarde les prélèvements et les contrôles d'eau qu'on fait, elles portent sur 400 molécules, et encore récemment sur 400, avant c'était encore moins. Et quand on cherche les molécules, on les trouve. Donc Aujourd'hui, on a les moyens analytiques pour aller chercher les molécules au plus fin, et donc on trouve effectivement ce qui est utilisé la plupart du temps. Il faut savoir quand même que les banques de données des grands industriels, c'est 2 millions de molécules différentes. Et donc, alors qu'ils sont déclinés différemment, et les 2 millions ne sont pas utilisés, évidemment. Mais il y en a à peu près quand même 100 000 qui sont utilisés assez régulièrement. Donc, si on veut vraiment contrôler, ben, on peut contrôler. Et chaque fois qu'on va démultiplier le nombre de prélèvements, on va trouver des choses nouvelles. Alors la question, c'est qu'on gère toujours à l'aval. C'est voilà, quand on trouve quelque chose, on le gère à l'aval, mais on ne gère jamais ces problèmes à l'amont.
Eh bien, merci Daniel Reininger. Et je rappelle que vous êtes l'ancien président et pilote du réseau eau de l'association Alsace Nature. Merci à vous.
Merci à vous aussi.
L'invité de la rédaction. Pierre Elenbach.